Fenêtre sur le monde vous convie cette semaine en Syrie. 10 ans après le début des printemps arabes, en 2011, la Syrie a connu, elle aussi, des mouvements de révolution, des mouvements de contestation. La France est intervenue, elle espérait intervenir militairement parlant en septembre 2013. Ça ne s'est pas fait. On nous a régulièrement promis, dans la bouche d'Alain Juppé, dans celle de Laurent Fabius, que Bachar al-Assad n'en avait plus que pour quelques semaines. 10 ans après, il est toujours là. Nous allons faire un bilan de ces 10 années de printemps arabe, de ces quasiment 7 à 8 ans de guerre civile en Syrie, de voir aussi pourquoi Bachar al-Assad a tenu, comment les Russes, les Turcs également, sont entrés dans le jeu et comment la France et l'Occident particulièrement se sont trompés. Pour évoquer la Syrie, je reçois cette semaine Frédéric Pichon, docteur en histoire, membre du comité de rédaction de Conflits, que vous retrouvez régulièrement dans le magazine, et qui est l'auteur notamment de 2 ouvrages consacrés à la guerre en Syrie, « Syrie, pourquoi l'Occident s'est trompé » et « Une guerre pour rien » qui était paru au CERF. Frédéric Pichon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau de Conflits. Alors, si on se remet 10 ans en arrière, nous sommes au début de l'année 2011. Les choses débutent bien, finalement. Il y a un début de ce qu'on appelle après les printemps arabes qui débutent en Tunisie, et puis la Syrie également est concernée. Et on se dit, Bachar al-Assad va être renversé, on aura un régime plus démocratique, respectant mieux les libertés, étant moins oppressif. Le régime d'Assad est quand même un régime policier et assez oppressif à l'égard des populations. Et puis, on l'a dit, tout le monde nous promet qu'il n'en a plus que pour très longtemps, et finalement il est toujours là. Alors, peut-être commençons par ça. Comment est-ce que Bachar al-Assad, dont on nous a promis, dans la bouche de nombreux chefs d'État, de ministres d'affaires étrangères qui n'en avaient plus pour très longtemps, comment se fait-il que 10 ans après, il est toujours au pouvoir et apparemment, il peut encore être là pendant pas mal d'années?
Alors, on a effectivement les mêmes ingrédients que ce qu'on a appelé les printemps arabes. On a une population avec une spécificité syrienne qui est que la population syrienne est particulièrement dynamique. Hafez al-Assad avait lancé des politiques natalistes, donc la Syrie en 40 ans a doublé sa population, et un sous-emploi chronique, une jeunesse qui est touchée, les réseaux sociaux, l'internet commençaient à arriver en Syrie, il n'y avait pas de censure particulière, les cybercafés fleurissaient partout avant 2011, et donc voilà, tous les ingrédients étaient a priori là pour nous annoncer ce que nous annonçaient les différents ministres des Affaires étrangères que vous avez cités. Bachar al-Assad va partir, va tomber. Seulement, ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé, en fait, pour une raison que pas mal d'observateurs avaient souligné, ceux qui connaissaient le régime syrien. C'est que, contrairement à d'autres pays, contrairement à la Tunisie, l'armée faisait corps avec le régime en Syrie, tout simplement parce que le cœur de l'armée est constitué, les unités et le corps des officiers est constitué de gens appartenant à la même communauté que le président Bachar al-Assad, c'était la communauté alaouite. Et on voyait mal la communauté alaouite lâcher Assad, dans la mesure où il faut bien connaître l'histoire de cette communauté. L'alaouitisme, en tout cas pas en tant que religion, mais en tant que communauté, ce sont des siècles d'oppression, de relégation, de discrimination de la part des autorités sunnites arabes. Et à l'époque du mandat français, c'est une communauté qui commence à redescendre un peu de sa montagne, qui choisit ensuite au moment de l'indépendance l'armée comme trajectoire d'évolution sociale, et qui a une sorte de revanche par rapport à ces siècles d'oppression, et qui sait que le reste de la population continue de lire les choses selon ces grilles-là, et que pour la bourgeoisie sunnite de Damas ou d'Alep être dirigée par les Alaouites ou de voir subir l'influence des Alaouites au niveau politique, c'est une forme d'humiliation. Alors évidemment, les Alaouites ont essayé d'intégrer, hein, même Assad a intégré une forme de bourgeoisie sunnite à ce pouvoir, et Bachar également. Mais on pouvait être sûr que de toute façon les Alaouites mourraient jusqu'au dernier pour préserver le pouvoir de Bachar, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Il faut pas oublier que en 2016, moi j'ai eu l'occasion de pouvoir circuler dans la montagne alaouite. Il n'y a plus que des vieillards, des femmes et des enfants, et des portraits de martyrs partout. La communauté alaouite a payé un énorme tribut à cette guerre, dans la mesure où c'est le corps des officiers, ce sont les unités les plus loyales, évidemment, que l'on envoie en première ligne, qui ont été, on pense que il y a au moins 100 000, 120 000 hommes appartenant à cette communauté qui ont perdu la vie depuis le début.
Et alors, ce sont qui les Alaouites? C'est un peuple? C'est une religion? C'est une branche de l'islam, mais considérée comme non musulman par certains?
C'est une branche de l'islam, mais qui n'a plus grand chose avec l'islam. Je parlais de ces villages alaouites dans lesquels je me suis baladé. Il n'y a pas de mosquée, par exemple. Ou alors, on m'a expliqué, si, il y a des mosquées, mais elles sont vides. Elles sont pas... on a construit des mosquées pour donner le change, pour dire qu'on est musulman, mais en fait, on n'est pas musulman. Hein. Les Alaouites se rassemblent dans des makams, ce qu'ils appellent des makams, qui sont une espèce de petits édicules. Bon, en réalité, ce n'est pas tellement la question spirituelle qui compte. L'alaouitisme est plus ou moins trinitaire. Enfin, il y a Salman. Mohammed, le prophète, est souvent dans la culture alaouite associé au diable. Donc vous voyez bien que tout ça n'a plus grand-chose à voir avec l'islam, mais ça leur a donné quand même une forte réputation, une solide réputation d'hérétique, pire que des chiens, enfin pire que des chrétiens et des juifs. Donc il n'y a aucun statut, pour ces gens-là dans l'islam politique, en tout cas. Hein. Les chrétiens et les juifs, c'est des gens de Ahl al-Kitab, c'est-à-dire les gens du livre, hein, mais les alaouites, non. Bon, mais ce qui fait sens de nos jours, c'est plutôt l'aspect communautaire, bien entendu, et un énorme investissement de la part d'Hafez al-Assad aussi dans l'arabisme et l'arabité. Bon, même si l'arabisme n'a plus tout à fait le vent en poupe dans le monde arabe.
Alors, la Syrie est un cas là aussi particulier, parce qu'on a dit qu'il y a des Alaouites, minorité chrétienne très forte, enfin moins nombreuse aujourd'hui, mais qui était forte à une époque, population arabe. Et puis, on a le parti Baas, qui est un des grands partis des années 50-80. Il y a notamment Saddam Hussein aussi, était le parti Baas, donc socialiste laïque, non islamiste. Il y avait un modèle politique ou un projet politique en Syrie. Comment fonctionnait l'État? C'est Hafez d'abord qui a pris le pouvoir et puis qui a transmis à son fils, donc une sorte de pouvoir héréditaire dans le cadre d'un parti qui est le parti Baas, avec l'appui d'une communauté. C'est assez particulier par rapport aux voisins.
Oui, alors il y a effectivement le parti Baas, qui veut dire le parti de la Renaissance arabe, en fait, hein, le Baas al-Arabiya, en fait, est à la base effectivement fondé par des Syriens, dont un Alaouite et également un chrétien, Michel Aflaq. Par rapport au Baas irakien, très vite, il va y avoir des tensions entre les deux pays, et donc les deux Baas vont se scinder et s'excommunier mutuellement. Michel Aflaq, d'ailleurs, finira sa vie à Bagdad, il choisira plutôt le Baas irakien. Bon, mais derrière cela, on a, en fait, typiquement, une idéologie de substitution à ce que les indépendances laissaient présager, c'est-à-dire une prise de pouvoir, ou en tout cas un modèle politique qui soit inspiré par l'islam. Pour des raisons qui se comprennent maintenant, les fondateurs du BAS, les inspirateurs du BAS, dont Michel Aflaq, n'étaient pas musulmans. Et donc c'est tout sauf l'islamisme. Donc on s'inspire en fait d'un modèle européen, d'un modèle plutôt socialiste, avec l'idée d'un parti unique. Et ce que vous avez appelé une laïcité qui n'est pas tout à fait une laïcité combative et combattante comme on a pu la connaître par exemple en France, puisque le chef d'État de Syrie dans la constitution bassiste doit être musulman, ce qui n'était pas prévu au début. Au début, Hafez al-Assad pensait pouvoir faire une constitution qui ne mentionne pas la religion du président. Il y a eu des émeutes, d'ailleurs à Hama, c'était tout à fait intéressant, déjà en 73, des émeutes assez violentes pour obliger le chef d'État à être musulman. Voilà, ce qui ensuite a été inscrit dans la constitution. Le problème, c'est que les alaouites n'étaient pas considérés comme des musulmans. Donc, on est allé chercher une fatwa d'un imam libanais, méchite, Moussa Sadr, qui disparaîtra bizarrement en 78 dans les sables de Libye, à l'invitation de Kadhafi en Libye, mais il n'est jamais revenu. Bon, ça, on ne sait pas encore trop ce qui s'est passé, mais... voilà, avec une organisation de la société, on va dire qui est peut-être pas laïque, mais en tout cas qui va permettre effectivement aux minorités, notamment chrétiennes, eh bien de s'organiser. Mais là aussi, peut-être un petit peu plus nuancé, pas tout à fait librement. Il y a une gestion communautaire des affaires économiques qui est quasiment totale. Donc là, on revient un petit peu à un modèle ottoman où les évêques et le clergé est finalement un administrateur aussi des wakfs et des biens de la communauté religieuse. En revanche, il y a quelque chose qui a quand même été très dommageable pour les chrétiens en Syrie. Ça a été en 67. La nationalisation du système d'éducation, y compris les écoles chrétiennes. Il n'y a pas d'école chrétienne en Syrie, sauf le kindergarten, comme ils disent, les écoles. Mais le système d'éducation en Syrie a été entièrement nationalisé en 67. Bon, alors il y avait le Liban à côté, ce qui permettait à beaucoup de chrétiens d'aller se former au Liban, puisque là vous avez des écoles confessionnelles. Voilà. Pour en revenir à Bachar al-Assad, qu'est-ce qu'il a fait de ses idéaux du BAS ? Bon, très clairement, Bachar al-Assad, c'est pas la même génération, c'est pas Hafez, ni même ceux qui l'entouraient. C'est quelqu'un qui n'a pas connu l'Union soviétique. C'est quelqu'un qui ne se destinait pas d'ailleurs à exercer le pouvoir.
Oui, il était ophtalmologue.
Il était ophtalmologue de formation, voilà. Et son frère aîné s'étant tué dans un accident de voiture, c'est à lui que devait revenir le pouvoir, donc il n'était pas question que ça passe aux mains d'une autre famille que la famille Assad. À partir des années 2000, donc de son accession au pouvoir, moi c'est un peu ma thèse dans mon dernier livre surtout, c'est que le pouvoir syrien c'est un peu tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire que Bachar al-Assad a essayé de moderniser son pays en essayant petit à petit de mettre fin au monopole du BAS sur la vie politique, sur la vie culturelle et sur la vie économique. Et toutes les structures d'encadrement des masses ont été contournées, non pas supprimées, mais contournées petit à petit par le biais de fondations, de type ONG avec un management très, très anglo-saxon, dont la femme de Bachar al-Assad d'ailleurs incarnait très bien ces méthodes, Asma. Mais bon, et ça a conduit à une espèce de premier printemps de Damas, sans pouvoir pour autant régler tous les problèmes de la Syrie. Bon, s'en sont suivis aussi des sécheresses assez catastrophiques, mais je pense que le principal, alors cette vision peut-être un peu marxiste, mais je sais que ça fait hurler beaucoup de gens, une des causes principales du soulèvement, c'est quand même le fait que la Syrie précisément s'ouvrait. il s'ouvrait économiquement et se métropolisait. Bachar al-Assad, moi j'ai connu la Syrie en 2002, il y avait un distributeur de billets dans toute la capitale, Damas. Et puis au fur et à mesure que j'y retournais tous les mois, ou tous les 15 jours, hop, ça fleurissait, etc. Vous aviez des marques européennes qui venaient sous-traiter en Syrie. Le résultat de cela, c'est que la clientèle qui avait soutenu le pouvoir et sur lequel s'appuyait sur le BAS, c'est-à-dire celle des ruraux qui avait une revanche à prendre justement contre les métropoles et la bourgeoisie sunnite, cette clientèle-là, elle a été substituée à cette clientèle, une nouvelle clientèle métropolitaine, bourgeoise, etc. Et dans les banlieues immenses des grandes métropoles syriennes sont venus s'entasser eh bien, des millions de Syriens qui avaient quitté les coopératives agricoles nationalisées, qui avaient été privatisées, ou qui ne fonctionnaient plus, ou qui avaient été victimes de sécheresse, et qui sont venus nourrir cette espèce de ressentiment contre le pouvoir de Bachar al-Assad. Ça s'est vu notamment pendant ce qu'on a appelé le siège d'Alep. Le siège d'Alep, c'est pas la ville d'Alep, c'est pas le régime de Bachar al-Assad qui a assiégé une ville. C'est une ville contre une partie de la ville contre l'autre partie, Alep-Est. Voilà. Et Alep-Est concentrait précisément ces ruraux. Moi, les gens d'Alep-Ouest que je connaissais me disaient, ces gens-là, on n'allait jamais dans ces quartiers-là avant la guerre. Ces gens-là, ce sont, on disait en arabe, ce sont des ploucs bigots. Voilà. Donc vous voyez, une sociologie très contrastée entre ceux qui avaient profité de l'ouverture relative au libéralisme et à la mondialisation entrepris depuis une dizaine d'années par Bachar al-Assad et ceux qui étaient les perdants et qui ont été travaillés, le sous-emploi aidant, les télés satellitaires arabes, notamment Qatari, Al Jazeera a joué un très grand rôle, ont été travaillés par cette propagande islamiste. Et il y a lors de l'investissement en 2012 de la ville, des quartiers ouest d'Alep par une partie des brigades qui s'étaient formées à l'est, il y a eu une violence symbolique qui était une violence de classe quasiment, hein, une violence sociale. C'est-à-dire, et on voyait ces jeunes gens très défavorisés parader dans les quartiers où ils n'avaient pas le droit d'aller avant. Voilà. Donc il y a aussi ces éléments-là qui ont joué. Avant, à mon avis, les désirs de démocratie ou de social-démocratie, même dont certains en France se sont.
Ça a été terrible, le siège d'Alep. Alep, c'est une des plus anciennes villes au monde, avec Damas aussi d'ailleurs, c'est deux très grandes villes qu'on a déjà dans l'Antiquité, des monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment le marché central. Et la ville a été
en
partie détruite.
Les plus grands souks du monde arabe encore conservés, les souks d'Alep, 12 ou 14 kilomètres de vieux souks, qui, selon les estimations, ont été détruits à 70%, mais enfin sont en train d'être reconstruits. Oui, parce que la vieille ville marquait en fait la frontière entre ces deux Alep. Et puis surtout la citadelle d'Alep, alors magnifique citadelle, très très célèbre, qui est restée pendant toute la durée du siège, donc pendant 4 ans, est restée aux mains de l'armée, et bien qu'elle fût quasiment encerclée par les rebelles, et donc elle était l'objet effectivement de bombardements.
Elle a joué son rôle de citadelle, finalement.
Elle a joué son rôle de citadelle de manière assez extraordinaire, comme quoi il y a une espèce de permanence des sites, elle n'a pas été prise, bon, sauf que là elle a été ravitaillée grâce à des hélicoptères, ouais. Je ne pense pas que les concepteurs à l'époque
n'avaient envisagé,
mais oui, les pertes, j'ai eu l'occasion de m'y rendre juste après la chute, ou la libération d'Alep, en janvier 2017, avec l'UNESCO, pour commencer à faire un inventaire. Il y a des choses qui ne reviendront plus, quoi.
Aujourd'hui, en début 2021, quelle est la situation de la Syrie? Est-ce qu'il y a encore des combats dans certaines régions? Est-ce qu'Assad a repris le contrôle du territoire?
Alors, l'immense majorité du pays est plus ou moins sous contrôle. À l'exception quand même de deux poches, l'une au nord-ouest, celle d'Idlib, où l'armée syrienne ne parvient plus à avancer, parce que ça ne dépend plus d'elle, ça dépend de la Turquie et de la Russie, et que ce qui se joue à Idlib, encore une fois, dépasse complètement la question de Damas, enfin, dépasse la responsabilité de Damas. Et puis, il y a la zone du nord-est, où on a une espèce de... proto-État kurde dont personne ne veut, ni turc évidemment, ni russe, ni syrien, ni même irakien, ni même iranien, donc ça fait quand même beaucoup de monde, et dont ceux qui voudraient qu'il, ceux qui font semblant de le soutenir, ce proto-État kurde au nord-est, eh bien, mettent des moyens quand même très, très faibles. Les États-Unis avaient fait un retrait qui devait être définitif, annoncé par Donald Trump en décembre 2018. On a appris d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, que le Pentagone avait menti à Donald Trump, en fait, en laissant des troupes supplémentaires quand même, beaucoup plus que ce qui était annoncé. Mais ça ne suffira pas à faire la différence. Franchement, personne de nos jours n'est prêt à se battre pour le Kurdistan autonome. Hein. Il faut laisser ça à quelques rêveurs germano-pratins ou aventuriers en mal de cause. Voilà. Maintenant, dans les zones pacifiées, ou en tout cas dans lesquelles l'État syrien est revenu, étant donné la faiblesse des moyens de l'État, étant donné l'état de crise économique, la corruption, qui a toujours été un mal syrien, mais qui là, évidemment, s'amplifie avec l'ensemble de chefs miliciens qui ont émergé du fait du conflit, hein, qui sont loyaux, enfin, qui sont en tout cas au service de l'État, il y a d'autres problèmes encore qui sont nés, qui naissent de cela. Bon. Mais là, il faut bien dire que la crise libanaise, la crise sanitaire, le gel, en fait, parce que c'est ça que ça veut dire, la crise financière libanaise, ça a été en fait la conséquence du gel des avoirs syriens. Hein, Beyrouth servait de banque et de dépôt au régime syrien à Damas depuis 2011. Tout ça n'a fait qu'aggraver la situation.
Quelle a été la position de la Russie dans la zone, qui est un soutien d'Assad? Il y a une base militaire russe, enfin avec des accords plutôt, donc la présence de l'armée russe. Sans l'intervention russe, est-ce que Assad aurait pu tenir, ou est-ce qu'une partie du territoire ne serait pas tombée dans l'État islamique a déjà une grosse partie, mais enfin, aurait pu davantage tenir, voire même la Turquie d'ailleurs aurait pu prendre le nord de la Syrie.
Non, alors incontestablement, l'intervention russe a été décisive pour sauver le régime de Damas, donc en septembre 2015. Une intervention avec assez peu de moyens, dont on pourrait peut-être s'inspirer pour le Sahel, des moyens qui ont fini par décroître une fois la mission, qui était tout simplement d'arrêter, de faire en sorte que Damas ne puisse pas tomber, que Bachar el-Assad ne puisse pas mettre en danger, et puis qui a consisté pour les Russes à prendre pied réellement en Syrie. Il n'en était pas tout à fait parti, puisqu'il y avait une petite base navale qui était concédée à la Russie, enfin à l'URSS puis à la Russie depuis 1971 à Tartous, mais désormais c'est la base de Khmeimim, donc qui a été concédée pour 99 ans, qui est en fait un territoire russe, et puis des unités déployées un petit peu partout, une énorme base d'écoute de radar dans le désert de Palmyre également. Qui fait que la Russie a opéré un retour au Moyen-Orient tout à fait spectaculaire et un rôle de faiseur de paix qui était plutôt dévolu autrefois aux États-Unis. Donc tout le monde parle avec la Russie, enfin en tout cas tous les acteurs ont parlé avec la Russie et continuent de parler avec la Russie, y compris les Français, les Américains, mais les Israéliens, les Saoudiens, les Iraniens. Alors, la Russie, elle a eu... elle était piquée au vif par l'intervention en Libye, très clairement. la résolution 1973 qui permettait une intervention en Libye contre Kadhafi au nom du chapitre 7 sur la responsabilité de protéger, a, pour la diplomatie russe, été, disons, surinterprétée. Donc les Russes avaient laissé, à l'époque c'était le président Medvedev, n'avait pas voté contre, mais s'était abstenu. Permettant que cette opération puisse avoir lieu. Le fait que ce soit allé jusqu'à l'élimination de Kadhafi les a braqués, et vraiment, ça a été la réponse. Très souvent, d'ailleurs, dans la diplomatie russe, on voit, il y a toujours une espèce de parallélisme. Vous savez, vous avez février 2008, la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo, et bien, vous avez la crise géorgienne qui intervient dans l'été. Il y a une espèce de désir mimétique russe qui fait que les réponses sont apparemment, ou se veulent apparemment, symétriques. Et donc ça a beaucoup joué dans l'investissement des Russes en Syrie. L'investissement en tout cas militaire. Bon, pour ce qui est des intérêts économiques, pas bien sûr que la Russie ait les moyens de reconstruire la Syrie. La Banque mondiale estime à 400 milliards de dollars la somme qu'il faudrait injecter pour retrouver le niveau d'infrastructure d'avant le conflit.
Ça va aiguiser les appétits. Alors, si se passe comme à l'Arabie Saoudite avec Beyrouth, qui ont reconstruit et donc contrôlé le Liban, on pourrait craindre aussi que les capitaux mettent la laisse autour du cou de la Syrie.
Oui, bien sûr, mais c'est à ceux qui mettront le plus de capitaux. Pour le moment, de toute façon, il y a des sanctions. La Syrie est sous sanctions, donc c'est très compliqué, en tout cas pour les entreprises, d'aller travailler en Syrie. Mais les États, les Émirats, par exemple, qui ont réouvert leur ambassade. Il n'y a pas encore d'ambassadeur, il y a un chargé d'affaires, mais les Émirats arabes unis sont présents à Damas et injectent un petit peu dans des projets de l'argent. Apparemment, ils ont l'air de passer sous les radars du Department of Justice américain, mais en tout cas, c'est très long et c'est beaucoup plus long que ce qu'on aurait pu penser. Et là, très clairement, les Occidentaux ont perdu la partie en Syrie et ils font, et les Américains en particulier, et ils font ce qu'ils savent très bien faire, les Américains, c'est-à-dire laisser sous position d'embargo très violente. Moi, des diplomates syriens m'ont dit que c'était, en fait, le régime de sanctions était quasiment pire que la guerre, qu'une intervention militaire, parce que c'est bien plus efficace, c'est bien plus dans la démotivation, y compris des cadres du pays.
Alors, on va terminer par la position française, qui a à peu près fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, ou qui s'est toujours fait complètement évincer de la zone. En septembre 2013, François Hollande a décidé d'intervenir militairement en Libye pour renverser Bachar al-Assad. Ça s'est quasiment joué. Enfin, en l'espace de quelques heures, on est passé d'une position de guerre certaine à où finalement l'intervention n'a pas eu lieu. Barack Obama, finalement, dans le moment, a lâché le pied et Poutine, de toute façon, s'y était fermement opposé. La France a fermé son ambassade. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de levier pour savoir ce qui se passe dans le pays. Ça a été une défaite diplomatique pour la France.
Un très beau cas d'école de présomption, de sous-évaluation de la situation, d'idéologisation de la politique étrangère. Voilà, à laquelle normalement la diplomatie française ne nous avait pas habitués, de manque d'équilibre, quelque chose qui a été regretté d'ailleurs par les autorités syriennes. Moi, je m'étais entretenu en 2014 avec celui qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères, puisque Faisal Moqdad, qui a remplacé Walid El-Mualem, qui est décédé, et qui m'avait expliqué comment, à l'époque de Éric Chevalier, donc le dernier ambassadeur en Syrie qu'on ait eu, ce dernier était venu dans son bureau à l'époque où Faisal Moqdad n'était que vice-ministre des Affaires étrangères et lui avait parlé de manière très méprisante sur ce qu'il fallait, sur ce que faisait la Syrie dans la répression des manifestations, etc. Enfin voilà, et il a dit mais n'attendez pas ça de la France, cette manière de faire. Bon. la diplomatie syrienne n'a pas été exempte de choses trappes, enfin, nous a posé des choses trappes, et évidemment, ce sont d'habiles manœuvriers. Mais oui, il y a eu quelque chose là-dessus. Maintenant, on fait un peu tout un fromage sur cette histoire d'intervention de 2013, et notamment, pour faire de nécessité vertu, on entend beaucoup chez d'anciens diplomates français le fait que, ah, mais vraiment, la politique de la France aurait pu donner quelque chose si Obama avait honoré sa promesse, il avait dit que la ligne rouge, hein, bon, si on regarde, parce qu'il y a eu d'autres interventions par la suite, françaises, hein, en 2018 notamment, on a frappé de conserve avec les Britanniques et les Américains des installations présumées de chimiques à Damas. L'intervention de 2013 n'aurait pas été beaucoup plus décisive ni offensive que celles qui ont suivi par la suite. C'est-à-dire que on a frappé en 2018 des bâtiments vides, dont, parce que les Russes ont laissé faire, ont laissé frapper, et probablement obtenu les coordonnées des frappes avant pour pouvoir prévenir les gens qui étaient là. Donc les Russes ont fait en sorte que nous ne perdions pas la face, mais l'intervention de 2018 comme celle de 2013 n'avait rien de décisif. En 2013, les rafales français qui étaient prêts à partir, ce n'était pas pour bombarder le palais présidentiel et éjecter Bachar el-Assad. Donc là aussi, on se paye de mots. On n'avait pas de solution alternative.
Hein. Tu dis en Libye non plus, mais enfin, c'est d'ailleurs ça.
Comme ça avait été fait en Libye, je pense que du coup, les gens étaient très méfiants. On ne l'aurait pas fait en Syrie.
Bien, espérons en tout cas qu'on n'aurait pas refait deux fois la même erreur. En tout cas, on voit que la situation est encore loin d'être réglée.
Tout est possible avec les diplomates français.
Surtout le pire. En tout cas, donc on continuera à suivre évidemment l'évolution de la Syrie. Merci beaucoup, Frédéric Pichon, d'avoir présenté comme ça ces 10 années, enfin en résumé, des 10 années de guerre qui ont amené la déstabilisation syrienne. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque, notre dernier numéro consacré à la Méditerranée orientale, et puis vous pouvez également acquérir Conflit sur le site internet de la revue, avec notamment 2 hors-Syrie récents, un consacré à l'aviation militaire et un autre au programme du baccalauréat. Et puis, vous pouvez également retrouver nos podcasts, nos émissions et des articles inédits sur notre site internet. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.